La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième jour de notre série consacrée jusqu'à demain au charmant petit monstre Françoise Sagan. Un monstre doux dont nous avons découvert une première facette lundi dernier avec Annick Jail, laquelle a vécu un moment auprès d'elle au début des années 80. Hier, nous sommes entrés dans l'analyse littéraire avec Ève-Alice Roustan, rejointe par Véronique Olmy. Enfin, demain, nous vous proposerons une émission en deux parties, la première portant sur l'année de la sortie de Bonjour Tristesse, 1954. Ce sera avec la romancière Anne Berest. Et la seconde partie sur Sagan et la ville de Paris, ce sera avec Alain Vircondelet. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, place aux dernières recherches littéraires sur Sagan. Il est vrai que l'université a depuis peu accepté de se pencher sur son œuvre et c'est justement ce qui a poussé Céline Romadova, docteur en lettres modernes et professeure au lycée Einstein de Sainte-Geneviève-des-Bois, à chercher à comprendre comment une œuvre importante du XXe siècle avait pu être aussi appréciée du public et pourtant si vite oubliée. Une œuvre qui plus est prolifique puisque Sagan est l'auteur de 23 romans et nouvelles, qu'elle est aussi dramaturge, scénariste, biographe de Sarah Bernhardt, qu'elle a écrit des fragments autobiographiques, des récits de voyage et bien d'autres choses encore. C'est de tout cela que nous parlons aujourd'hui. Bienvenue dans la compagnie des auteurs.
Comment vous vous imaginez quand vous aurez par exemple 60 ans? Galopante, drôle, hystérique, nymphomane, amusante? Folle.
Oh, nymphomane, non, je pense pas, parce que tu m'as fait beaucoup la fête, c'est pas une chose qui va me manquer tellement.
Au bout de 60 ans, c'est un âge idéal pour la...
C'est un regret, je crois, nymphomanie, c'est pas... Mais le...
Comment vous souhaitez, est-ce que vous serez toujours aussi amusante, aussi folle? Est-ce que vous pourriez être folle à 60 ans?
À 60 ans, oui. J'aimerais être très bien habillée. Tout bien, je resterai mince, parce que ma famille, on grossit pas. Je serai très bien habillée, je serai bien coiffée. Très soigné. Si j'aurais de petits enfants qui vont me casser les pieds, sans doute. Alors, les maîtresses de mon fils qui ont été pleurnichées qu'il leur a fait des vacheries. Et si je me sens encore assez en forme, et si j'ai un homme qui m'aime, et bien je continuerai à avoir des histoires d'amour.
Et avec les mêmes règles de vie, enfin moins de sérieux.
Ou peut-être un peu moins de santé, un peu moins de pep. Mais c'est... on était plus fatigués à 60 ans qu'à 37.
Bonjour Céline Romadova.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on écoute une archive comme celle-là quand on a passé, comme vous, plusieurs années à fouiller réellement l'œuvre de Sagan?
Avec un certain sourire, la réponse est facile. J'aime beaucoup l'expression « le pep » sur la fin, puisque ça fait partie du snobisme un petit peu de François Sagan, qui aimait bien caser quelques expressions anglaises. On retrouve cette satire dans certains de ses romans, justement, et qui fait penser parfois à Proust aussi, qui pointait ça chez certains de ses personnages. Également un petit peu de... on va dire de tristesse, en sachant qu'à 60 ans, sa santé s'était pour le coup fortement dégradée, qu'elle vivait un peu plus recluse, entourée des siens, bien sûr, mais avec une santé fragilisée dès 1957 par son accident de voiture et qui, par la suite, n'a cessé de se dégrader.
Alors, dans les cahiers de Lerne, album Sagan, elle imaginait ce qu'il y aurait écrit sur sa pierre tombale. « S'y gît et ne s'en console pas, Françoise Sagan fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fut un scandale mondial, une œuvre et une vie également agréable et bâclée. » C'est pas du tout ce qu'il y a écrit sur sa pierre tombale, mais elle avait imaginé ça quand même. C'est une forme de lucidité, vous croyez ?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si elle était née en naissant à l'écriture, puisque effectivement Françoise Sagan, née en 1954, elle était avant Françoise Coiret uniquement. Elle entretient toujours le fameux mythe d'un auteur d'une seule œuvre. celle de Bonjour Tristesse, et un petit peu passé sous silence ces grands romans qu'elle a écrits par la suite, entre autres La Femme Fardée, De Guerlas, d'autres romans que les lecteurs ont appréciés aussi. Mais c'est vrai que c'est son best-seller, celui qui lui a valu 1 million d'exemplaires et plus partout en France et à l'étranger.
Et vous pensez qu'elle l'entretient effectivement ?
D'une certaine façon, dans le sens où elle a refusé par exemple d'entrer à l'Académie française. Elle disait « Le verre ne me va pas ». Elle disait qu'elle portait sa légende comme une voilette, mais malgré tout, elle a participé à de nombreuses émissions de télé où elle acceptait de parler de ses œuvres, mais de sa vie aussi. Elle a protégé parfois sa vie privée, bien sûr, mais elle a quand même alimenté ce mythe. Et finalement, elle est en partie responsable du fait qu'elle soit presque le personnage le plus intéressant de ses romans, d'une certaine façon.
Mais on se demande si elle y prenait du plaisir, parce que sur les interviews télévisées, on voit qu'elle est physiquement mal à l'aise, en fait. Elle n'a pas envie d'être là.
Certaines timidités, ça c'est évident, mais je pense qu'il faut prendre en compte le fait qu'au XXe siècle, les auteurs deviennent des personnages publics et médiatiques grâce à une diffusion qui n'existait pas avant. Et c'est ça qui est passionnant, effectivement, d'avoir accès aussi à des archives. Moi, quand je me suis mise à travailler sur Françoise Sagan, je n'avais pas vu, j'étais trop jeune pour, j'avais pas vu Françoise Sagan à la télévision, au JT de France 2, etc. Et donc quand je suis retombée sur les archives, c'était vraiment très émouvant. C'est l'avantage de travailler sur un auteur du XXe siècle.
Donc vous, quand vous avez commencé à vous intéresser à Sagan, il n'y avait rien, absolument rien, dans la recherche universitaire la concernant.
Alors, rien, c'est exagéré. Il y avait une thèse, par exemple, en 1980, mais Françoise Sagan n'était pas morte et n'avait pas fini d'écrire. Donc c'est ça qui... le travail qu'il fallait poursuivre, c'était d'avoir un regard global et rétrospectif sur toute son œuvre. Effectivement, elle-même a écrit Derrière l'épaule, qui est une commande qu'on lui a faite pour juger ses œuvres, effectivement, après coup. Mais évidemment, il y a un grand pas entre une critique, enfin, ce que peut dire une critique littéraire et ce que peut dire un auteur de sa propre œuvre.
Si vous aviez pu la rencontrer, ça aurait changé quelque chose à votre travail? Qu'est-ce que vous lui auriez demandé?
Je lui aurais demandé, entre autres, si elle avait vraiment écrit des romans de l'antipassion, si elle ne croyait vraiment pas en l'amour, puisqu'elle a quand même, vous l'avez dit, connu de grands amours dans sa vie. Est-ce que la jalousie, l'infidélité, l'amitié, finalement, est-ce que l'amitié a pris le pas sur l'amour dans sa vie, par exemple ?
Parce que la question de l'antipassion, c'est, on va le voir, le cœur de votre thèse.
C'est une époque vraiment un peu trop tendue, si vous voulez, actuellement. De temps en temps, que quelqu'un, même schématiquement, explique, même confusément comme moi, ce qu'il peut penser de la vie par rapport, et que les gens y retrouvent une idée qu'ils ont eux-mêmes, ça les rassure. C'est rassurant. Non ?
Oui.
Mais la solitude, c'est fou. Moi, ce qui m'a le plus frappé en 68, au moment de mai, c'était pas les feux de joie partout, parce que ça remarquait, c'était assez gai, mais c'était les... J'étais à l'Odéon ou à la Sorbonne, choses comme ça, c'était le goût qu'avaient les gens de parler. Les types, en fait, ils n'avaient jamais pu parler à la personne de leur vie. Disons qu'ils étaient beaucoup, qui étaient vilains, qui étaient inintelligents, parce que ce qu'ils disaient était horriblement ennuyeux, qui étaient mortels, d'ennui. On sentait qu'ils étaient ravagés, que l'affaire... un micro et que tout le monde les écoute, ils étaient sauvés. Sauvés pour peut-être une heure, mais qui s'en rappellent toute leur vie. Et ça, c'était la seule chose, enfin la chose la plus belle de l'histoire.
On dit beaucoup, Céline Romanova, que Sagan est un peintre de son temps, et vous avez d'ailleurs consacré la première partie de votre thèse à cette question-là. C'est peut-être pas le cœur de ce que vous aviez envie de dire, mais tout de même, peut-on la détacher de ces années 30 dont elle dépeint à la fois la tristesse? Nous, ça nous semble un âge d'or, les années 30, mais...
60.
Pardon, les 30 glorieuses, les années 60, les 30 glorieuses. Mais pour elle, effectivement, ça n'est pas du tout une période qu'elle aime particulièrement. Elle ne semble pas apprécier particulièrement cette période-là.
Elle dit qu'elle est consciente d'être née à une période privilégiée. Malgré tout, elle dit qu'elle a eu une liberté que n'auront pas les générations suivantes. Ça, c'est en tant que personne. Dans ses romans, On a bien sûr le fameux Petit Monde de Françoise Sagan, Une vie de luxe, mais c'est un vernis. En fait, le thème de l'illusion, de l'artificialité du monde comme un théâtre, comme une sorte de coulisse finalement où se jouent les drames des personnages, est fondamental. On voit bien le lien entre la romancière et la dramaturge, même dans ses romans. Et surtout, elle décrit des personnages. On a dans l'extrait sonore l'idée d'être sauvée. Cette idée de l'absence de Dieu, d'une quête qu'elle n'avoue pas de façon explicite. Mais il y a des expressions dans ses romans, comme Cécile, dans Bonjour en tristesse, qui est comme clouée au sol sur la plage. Et il y a cette expression qui est reprise dans le lit des fées pour Édouard. L'idée d'être clouée comme Dieu sur la croix. C'est ça, un peu comme Dieu sur la croix. Une passion aux deux sens, passion amoureuse et passion comme souffrance, qu'on retrouve dans tous ses romans.
Mais ça, c'est son éducation.
C'est son éducation, bien sûr. Elle a reçu une éducation religieuse. Elle dit que très vite, à 13 ans, peut-être, elle a perdu foi en Dieu. Mais ses personnages n'arrêtent pas de développer le thème du carpe diem sous différentes formes, métaphores. Le sablier pour Cécile dans Bonjour Tristesse, par exemple. Le temps qui s'écoule. Et il y a, en tout cas, une profonde recherche d'absolu qu'il ne trouve pas et qui peut prendre la forme du suicide pour certains personnages. Il y a quand même beaucoup de suicidés chez Françoise Sagan, Anne dans Bonjour Tristesse par exemple, entre autres, mais aussi Andreas dans La Femme Fardée et 3-4 autres. Donc c'est assez répétitif pour être significatif.
Donc l'issue, c'est soit le suicide, soit un hédonisme exacerbé.
C'est ça, un petit peu l'idée du carpe diem, mais poussée à l'extrême. La sensation du temps présent, c'est vraiment très important. La suprême étude du bonheur que nul n'élude, c'est au début de La Chamane, une reprise de Rimbaud. Effectivement, avec une sorte de fatalité liée à cette jouissance de l'instant présent, comme Lucille dans La Chamane, qui finalement renonce à sa passion avec un jeune homme, pour regagner finalement le giron d'un personnage beaucoup plus conservateur, Charles, qui sera la protégée et qui, du coup, lui permet de jouir de l'instant présent, parce qu'elle est comme faite, elle est collée au présent, elle est faite pour jouir du temps présent.
Alors, jouir du temps présent, c'est exister. Est-ce que la littérature de Françoise Sagan, c'est une littérature de l'existence, voire même de l'existentialisme, qui est pour le coup la pensée de l'époque quand même?
C'est justement le... On est vraiment dans le cœur du problème, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui revendiquent leur liberté de façon absolue. Cécile dit il faut être libre, libre de se choisir soi-même, libre de ne pas rentrer dans des moules, c'est à peu près la citation, alors que certains personnages manquent d'existence. On parle de personnages falots, de personnages trop minces pour Françoise Sagan, c'est ce que reproche la plupart de la critique journalistique. Et justement, on a des personnages de fantômes, comme dans Château en Suède, Ophélie, qui est la première femme d'Hugo et qui est cachée dans une aile du château parce qu'il s'est remarié avec une autre femme et que donc cette bigamie doit être cachée. Et Ophélie, c'est une sorte de symbole des personnages de Sagan, un fantôme qui n'arrive pas vraiment à atteindre l'existence pleine et qui est comme la mauvaise conscience finalement des autres personnages de la pièce. Et il y a des personnages effectivement qui choisissent le suicide parce qu'ils n'arrivent pas non plus à la pleine existence, notamment à cause des échecs amoureux. C'est comme si l'amour et la vie étaient liés, comme dans la tradition occidentale, hein, Eros, Thanatos, évidemment.
Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des personnages qui arrivent
à la pleine existence.
Se réaliser à la pleine existence?
Il n'y a qu'un seul roman vraiment, il y a deux romans vraiment heureux, qui ont une fin heureuse chez Françoise Sagan, Le lit des fées, et Un profil perdu, où on s'arrête sur un couple heureux et une femme enceinte, ce qui est vraiment très très rare chez Françoise Sagan. Et donc, on peut donner cet exemple-là, mais c'est vrai que ce sont des exceptions.
Et est-ce que ces romans, vous les avez analysés différemment des autres? Est-ce qu'ils ont une signification particulière dans son œuvre?
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Le lit des fées, qui est la suite du roman Dans un mois, dans un an. C'est intéressant parce que c'est un cycle. Donc, on retrouve les mêmes personnages 5 ans plus tard. Édouard, qui est un jeune dramaturge qui essaye de trouver sa voie et tombe amoureuse d'une comédienne à succès, qui elle est beaucoup plus frivole, qui est aussi arriviste. Et donc cet amour est tragique, en tout cas du point de vue d'Édouard, puisqu'il mène à la rupture. Et on retrouve ce même couple 5 ans plus tard, et cette fois, là, réussit à sublimer finalement l'échec amoureux, puisqu'Édouard réussit à écrire une pièce pour Béatrice et qui raconte son amour pour Béatrice. Donc je trouve ça très intéressant que finalement on arrive à sublimer l'amour grâce à l'art finalement.
Alors pour revenir à cette question de l'existence et de l'existentialisme, il faut évidemment se souvenir qu'elle a connu Jean-Paul Sartre, mais on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit une philosophe en tant que telle. Il n'y a rien de proprement philosophique dans l'œuvre de Sagan et dans sa vie, on ne sait pas.
Alors dans son œuvre, non, effectivement, on n'a pas certains thèmes comme la liberté est un thème important, effectivement, le rôle des femmes aussi. Sans que Sagan soit une féministe, effectivement, elle peint la libération des mœurs à partir des années 50-60. Malgré tout, ce n'est pas quelqu'un d'engagé. Elle est peut-être plus engagée dans sa vie que dans son œuvre, puisqu'elle a signé, par exemple, le manifeste des 343 salopes qui demandait, on va dire, la légalisation de l'avortement. Et elle exploite ce thème dans le roman La Chamade. Donc, en ce sens, on peut dire qu'elle traite de thèmes d'actualité, mais sans jamais s'apesantir, effectivement, en étant... Certains disent superficiel, on pourra dire légère, subtile, si on est beaucoup plus
détaché
positif.
Peut-être. Il y a un détachement par rapport à l'histoire en train de se faire.
Bien sûr, je pense qu'il y a une idée d'ironie qui fait qu'elle fait confiance finalement à l'intelligence de son lecteur, une forme de complicité qui se crée avec son lecteur. Et c'est à lui de tirer peut-être un enseignement, puisque elle-même, à part peut-être à la fin d'un certain sourire, elle dit « voilà, il n'y a pas de quoi faire de grimaces ». Qui serait peut-être sa morale tout à fait à la fois cynique, un peu fataliste, mais aussi pleine de sagesse finalement.
Donc ça n'est pas Sartre, ça n'est pas Beauvoir non plus, ce serait plutôt Colette alors à ce moment-là, elle serait plutôt dans une lignée d'écrivains purs à laquelle on a envie de raccrocher Colette.
Effectivement, il y a l'amour de la vie, l'amour pour les bêtes qui apparaît un petit peu dans son œuvre. Il y a aussi l'importance du corps. Souvent, on a reproché à François Sagan d'écrire des romans sulfureux. Elle a même été mise à l'index pour Bonjour Tristesse, il ne faut pas l'oublier. Et finalement, quand on relit son œuvre aujourd'hui, ça paraît très désuet par rapport à des œuvres beaucoup plus, on va dire, concrètes. Les ébats amoureux sont racontés de façon très poétique, très métaphorique. Mais malgré tout, le corps est fondamental, il est primordial, on va dire, dans l'écriture de son œuvre.
Et ce corps, alors, comment est-ce qu'elle le décrit, vous dites poétiquement ? Mais encore.
De façon un petit peu, donc je dis métaphorique, à travers. En même temps, elle évoque. J'ai étudié le passage de la première relation de Cécile et de Cyril avec mes élèves. Ils étaient très gênés de comprendre effectivement qu'elle évoquait les choses de façon beaucoup plus crue qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Clairement l'évocation de l'orgasme, ce genre de choses.
Dans Bonjour Tristesse.
Dans Bonjour Tristesse.
Cécile qui a 17 ans et Cyril qui en
19.
A seulement 19. Parce que souvent il y a des différences d'âge très importantes dans les romans de Sagan entre les
amants. Finalement, elle a une relation avec Cyril, mais elle est bien intéressée par Charles Webb, qui est un des amis de son père Raymond. Les neveux qui séduisent. Enfin, quelqu'un a dit c'est les neveux qui séduisent, mais c'est les oncles qui plaisent finalement. On est très loin des barbons qu'on peut trouver chez Molière, par exemple. C'est plus du tout le regard perverse quadragénaires sur les jeunes filles. Là, les jeunes filles sont tout à fait disposées à être séduites par des hommes plus âgés. Avec parfois une relecture un petit peu au féminin de la relation du gigolo avec la dame plus âgée, qu'on trouve aussi chez Sagan, puisque Dominique, dans Un certain sourire, voit dans sa relation avec Luc aussi les robes, les sorties, les week-ends, par exemple, au bord de la mer.
Et vous y voyez là quelque chose de proprement saganien ou de proprement lié à une époque et des mœurs qui sont en train de changer ?
Certainement, puisqu'on a l'idée, on a la représentation de quelque chose qui est totalement tabou à l'époque, c'est la sexualité adolescente, tout court. Alors, on a évidemment le tabou supplémentaire d'une relation, en plus avec des hommes mariés la plupart du temps. Et puis, bien sûr, après, c'est quelque chose, par contre, qui est tout à fait commun, la relecture du mythe d'Œdipe, tout simplement, le fait qu'à travers ces relations, c'est la mère qu'on tue et la figure de père qu'on recherche.
Et là, il y a une analyse psychologique à faire.
Alors, psychanalytique assez facile, on va dire, puisque, par exemple, dans Bonjour Tristesse, Cécile a toujours accepté les maîtresses de son père. Elle était d'accord pour que Elsa vienne dans le sud passer des vacances avec eux. Mais par contre, les choses se compliquent quand son père et Anne lui apprennent qu'il décide de se marier. Là, à ce moment, effectivement, le plan se met en marche pour évincer cette mère de substitution, par exemple.
Vous écrivez par image le plus souvent ?
Par image, oui, par
par sensation, de temps en temps par pure excitation mentale sur un sujet, sur un sentiment, sur une découverte de sentiments que l'on croit faire. Enfin, en fait, écrire, c'est découvrir ce qu'on savait déjà, d'une manière. C'était ça le plus agréable. On dit, tiens, mais j'ai inventé ça, mais au fond, j'ai toujours su. C'est retrouver une vérité qu'on ne s'était pas formulée, c'est tout. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Proust est donné tellement facilement, enfin, à mes yeux, parce que toujours, on dit, mais c'est ça, mais naturellement, c'est ça. Évidemment, c'est ça, mais personne ne l'avait écrit avant.
Et personne d'autre n'exprime pour vous ces évidences-là de mettre en ligne continue ce qui n'était qu'en pointillé?
Si, bien sûr, il y a toute œuvre d'écrivain, Dostoïevski fait ça aussi, il passe par la pitié pour expliquer le monde, hein, par la pitié, la compréhension.
La pitié, c'est quelque chose qui vous est familier?
Oui. Enfin, la pitié, il y a quelque chose de péjoratif dans la pitié, mais une manière de s'apitoyer, dans le bon sens du terme, d'avoir a priori, pour les gens qu'on rencontre, une certaine sentiment de fragilité. Les gens sont fragiles.
Un entretien avec Jacques Pogam en 1977. C'est une romantique, Françoise Sagan, Céline Romanova.
Oui, bien sûr. Elle disait d'ailleurs que, avant de se marier et de connaître, on va dire, ce que ça représente concrètement, elle avait toujours rêvé vivre le mariage. Elle rêvait du prince charmant, même si après, elle a toujours dit l'irréel me barbe. Là, je la cite. Elle n'aimait pas, par exemple, le petit prince. Voilà, elle n'aimait pas le merveilleux. Malgré tout, on voit dans ces personnages des personnages en souffrance, des personnages mélancoliques et des personnages d'écrivains aussi, ce qui est très intéressant. Généralement d'écrivains ratés, ce qui est à souligner. Mais on peut voir par exemple dans Un orage immobile, en 1980, qu'elle présente un métayer, Gildas, qui est un poète également, qui a tout du romantique parce que justement, il a cette marginalité sociale qui peut faire penser à Ruy Blas et qu'il est capable d'écrire des poèmes, ce qui va séduire la châtelaine Flora de Margelas. Et donc, il va à Paris rentrer dans les cénacles romantiques, par exemple, et il va être récompensé par l'Académie française pour un recueil de poèmes qui s'appelle Les Allées mélancoliques. Donc on voit bien ce mal-être de Musset qu'on retrouve également dans les œuvres de Françoise Sagan.
Et vous allez jusqu'à dire que les romans d'amour de Sagan renouvellent le grand mythe européen de l'adultère. C'est pas très romantique, cela dit, l'adultère.
Non, c'est pour ça que c'est une sorte de, on peut parler de néo-romantisme. En tout cas, l'amour est toujours insatisfait dans les romans de Françoise Sagan. L'adultère, elle le voit, comme elle le dit, avec beaucoup d'indulgence. Comme on voit ici, elle dit, moi, j'aborde les gens avec toujours de la pitié, de la bienveillance. Ce qu'on a pu dire dans les émissions précédentes, elle fait preuve de beaucoup de bonté. Et dans son œuvre, elle traite de ce thème et de l'infidélité et de la jalousie, en disant que la jalousie, c'est ce qu'il y a de pire finalement dans la passion, c'est le pire côté de la passion, et elle accepte l'infidélité à condition que ça reste effectivement dans des sans que ça génère trop de souffrance. Comme par exemple dans Aimez-vous Brahms, où Paul n'accepte pas du tout la solitude que lui donne l'infidélité de Roger. Finalement, elle décide de prendre un amant plus jeune, qui est une passade, puisqu'elle est profondément amoureuse de Roger, par exemple.
Donc encore une fois, on ne croit pas à la possibilité d'un amour sincère. On est un peu pragmatique en amour. On se désire. Si on ne se désire plus, on se trompe. Ensuite, on se quitte. Tout cela, finalement, n'est pas très grave.
Oui, mais en même temps, elle manque de conservatisme, puisque on ne reste pas forcément, pour les personnages de Sagan qui ne sont pas encore mariés, ça leur confère une certaine liberté. Et finalement, elle décide de se quitter plutôt que de s'enferrer dans un mariage, qui est aussi une alternative qui n'était pas toujours acceptée à l'époque.
Oui, mais on ne s'aime pas véritablement.
Non, jamais totalement.
C'est là où il y a ce que vous appelez des romans de l'antipassion. C'est ça, cette antipassion dont vous parlez dans votre thèse, Céline Romanova.
Effectivement, puisque très vite, en fait, elle montre comment les sentiments se délitent, les liaisons s'érodent. Et c'est, voilà, on peut faire référence au titre « Le lit défait », qui est une sorte de métaphore de toutes ces déliaisons. Le lit est défait, donc l'amour est consommé et après, il reste vide. C'est ce vide-là, effectivement, qui serait le symbole de cette passion.
Et vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Céline Romadova et nous parlons de Françoise Sagan. Françoise Sagan, dont les romans ne font quasiment jamais, une seule fois, je crois, mention des enfants. Alors, c'est quand même très très étonnant.
Effectivement. Alors, il y a quelques mentions d'enfants, mais on va dire sous forme de grossesses qui sont interrompues. Par exemple, une femme qui est complètement délaissée dans un mois, dans un an, et qui va faire son énième fausse couche. Donc, en tout cas, l'enfantement n'arrive pas jusqu'au bout. Je l'ai dit, à la fin d'un profil perdu, on termine le roman sur une grossesse. Mais pour le reste, effectivement, les enfants sont complètement absents de l'imaginaire romanesque de Françoise Sagan, à croire que finalement... les personnages ont besoin d'être centrés sur eux-mêmes, sur leurs passions, et qu'ils n'ont pas finalement peut-être assez d'existence pour faire exister au-delà d'eux, peut-être. Ou peut-être également, on peut développer l'idée que les personnages sont tellement dans l'instant présent, dans l'irresponsabilité, qu'ils se comportent comme des enfants eux-mêmes.
Mais est-ce que ça les fait souffrir, ces personnages, de ne pas avoir d'enfants la plupart du temps ?
Non, il n'y a pas de réflexion sur le manque... sur le sentiment de maternité. Au contraire, Cécile est très provocatrice, par exemple. Elle va rendre visite à la mère de Cyril, donc son jeune amant, et elle dit « Mais pourquoi on devrait la féliciter juste d'être une maman et une putain ?» quasiment dans le texte. Et Anne Larsen lui dit qu'elle s'est très mal comportée. Elle lui dit « Vous avez des idées très à la mode, mais c'est pas pour autant que vous avez raison. »
C'est le syndrome aussi de Peter Pan dont sont peut-être atteints les personnages de Sagan adultes. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, ils ne sont pas eux-mêmes des enfants qui restent des enfants ?
Effectivement, et j'aime beaucoup le personnage d'Ophélie d'Un château en Suède, donc cette première épouse d'Hugo qui est cachée, puisque c'est vraiment le personnage de l'enfant type, c'est-à-dire celle qui rappelle qu'elle a faim, qu'elle aime jouer. Donc elle renvoie vraiment au monde de l'enfance dans toute sa pureté et aussi dans toute son horreur parce qu'elle est très bien, elle est au courant de tout ce qui se trame dans le château. Elle sait que le cousin va être tué à la fin de la pièce et pour autant elle dit juste qu'elle invite faire une partie de piquet.
Quel est vous votre sentiment vis-à-vis de ça, parce que vous analysez les choses de manière froide, mais en fait il y a rien de froid dans tout ce que vous dites, c'est même extrêmement sensible.
Oui, effectivement. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est dit dans les romans de Sagan et sa vie personnelle, hein, puisque c'était une maman accomplie. Elle a toujours protégé son fils Denis Westhoff et elle a été présente pour lui. Voilà, il ne faut pas faire l'amalgame entre la vie de l'auteur et son œuvre. Mais c'est très intéressant de voir effectivement qu'elle a préféré fonder une famille de papier. Elle a été hantée par certains personnages qui reviennent dans les cycles romanesques.
Il y a vraiment une famille de papier pour vous ?
Oui, parce qu'on retrouve notamment les personnages de Château en Suède dans Des Bleus à l'âme. Donc on passe d'une pièce de théâtre à un roman, quasiment 12 ans plus tard. C'est très intéressant, comme si elle avait besoin de cette compagnie finalement littéraire.
Et comme si elle vivait avec eux ?
Certainement.
Nous poursuivons cette conversation avec vous dans quelques minutes, Céline Romadova, mais tout de suite sur France Culture. Il est 15h28. Et c'est le moment de retrouver notre séquence en compagnie des revues. Nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Pierre Assouline du magazine littéraire. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Alors votre édito dans ce numéro du magazine littéraire porte sur la fin des écrivains au jury du Festival de Cannes qui s'est achevé la semaine dernière. Et c'est l'occasion de rappeler Pierre que Sagan, justement, dont nous parlons toute la semaine ici, a été présidente du jury de Cannes en 1979.
Et oui, on n'aurait pas imaginé Sagan à Cannes, puisque ses rapports avec le cinéma sont assez lâches et souvent passionnels, et même si elle affecte de ne jamais aller au cinéma. Là, en l'occurrence, elle a été au cinéma, puisque en tant que présidente du jury...
Deux fois par jour, bien minimum.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été l'occasion d'un scandale, entre guillemets, puisque... Elle a soutenu le tambour de Volker Schlondorf, elle ne l'a pas caché. Or là, il y a eu une intrusion, une volonté d'influence de la direction du Festival de Cannes pour faire aboutir Apocalypse Now. Et finalement, ça sera ni chèvre ni chou, ça sera les deux à la fois, une palme ex aequo pour Schlondorf et Coppola. Et elle en a été très, très encolérée. C'est-à-dire, elle l'a fait savoir peu après, dans quelques mois après, elle est sortie de son devoir de réserve. Et dans la presse, elle a raconté les délibérations, ce qui s'était passé, l'influence, la pression de la direction du festival. Et en retour, ils lui ont envoyé un scud qui consistait à faire publier par la presse ses notes de frais qu'elle avait laissées, qu'elle avait oubliées
Oui, alors ça, palace, c'est vrai qu'elle n'a pas dû faire très attention
à ça. Dans le bar du palace où elle était abritée.
Céline Romanova, avant que vous continuiez, Pierre Assouline. Il y a une forme de courage quand même là, dans la prise de position de Françoise Sagan.
Oui, bien sûr. Et la réponse a été terrible. mais effectivement, voilà, la solution a été très lâche hein, depuis finalement... donner ex aequo les deux pressentis. Voilà, il y a aussi le fait de vouloir privilégier peut-être un film américain, peut-être plus international.
C'était diplomatique.
Voilà.
Aussi, cela dit, pour moi, le chef-d'œuvre des deux, c'est quand même Apocalypse Now, donc ils ne se sont pas trompés non plus. Même si le film de Schlondorf reste un grand film.
En tout cas, Pierre Assouline, des écrivains au jury de Cannes, il y en a eu beaucoup.
Et oui, parce que dans ce numéro spécial que nous consacrons dans le magazine littéraire, tout un dossier au rapport entre les écrivains et le cinéma à l'occasion du Festival de Cannes, on s'est aperçu quand même qu'il fut un temps où non seulement il y avait des écrivains chaque année dans le jury, mais même parfois la moitié du jury était composée d'écrivains et presque tout le temps, le président était un écrivain. Je vous cite des noms très rapidement, André Mauroy, Maurice Genevoix, Jean Cocteau, Pagnol, Achard, Simenon, Giono, Salacrou, Asturias, Tennessee Williams, William Styron, et puis plus récemment Modiano, Zoé Valdés, Emmanuel Carrère, Toni Morrison, Norman Mailer, etc., etc. Depuis quelques années, ce ne sont plus que des professionnels de la profession. D'ailleurs, dans le jury de Françoise Sagan, dont elle était présidente, il y avait un seul autre écrivain, un écrivain russe. C'est bien dommage.
Ça signifie quelque chose pour vous, Pierre ?
Oui, ça signifie d'abord que c'est un manque, je trouve, dans le goût du jury. Ça leur donnerait peut-être d'autres idées de temps en temps. Il ne resterait pas que dans un entre-soi, entre professionnel et la profession. Personne n'est mieux placé qu'un écrivain, qu'un romancier pour raconter une histoire. Et au cinéma, il s'agit aussi de raconter une histoire. Et puis malheureusement, ça donne un autre signe. Ça montre que le prestige et l'autorité des écrivains, finalement, n'est plus ce qu'il était. Parce que l'époque des années 60, où Simenon était président du jury, et c'est grâce à lui que Fellini a eu la palme pour la Dolce Vita, il l'a imposé et il s'est fait siffler par le public et les critiques du festival, hein, vous imaginez quand même. Voilà, il fallait des gens comme Simenon pour s'affranchir de toutes les contraintes des gens du cinéma.
Alors dans le magazine littéraire et dans votre édito, vous parlez de deux livres qui paraissent et qui sont justement liés au cinéma. Le premier, c'est celui de Frédéric Mercier. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot ?
Oui, c'est Les écrivains du 7e art qui est publié chez Séguier, qui est une très bonne compilation des rapports entre les écrivains et le cinéma, depuis en tout cas au moins un demi-siècle. C'est très bien fait, c'est historique. Et justement, je suis allé voir ce qu'il disait de Sagan. Il disait que, contrairement à ce qu'on croit, ça a souvent été passionnel, mais que finalement, le bilan entre ce qui a été adapté de son œuvre et ce à quoi elle a collaboré comme scénariste et dialoguiste, surnage qu'un film. C'est « Bonjour Tristesse » d'Otto Preminger. Mais pour le reste, Les Vadim, c'est pas bon, ça tient pas le coup. Ce qu'elle a fait elle-même avec Les Fougères Bleues, ça ne tient pas le coup. Et d'une manière générale, c'est pas bon du tout. Peut-être Le Landru est sauvé par Charles Denner, qui était un magnifique comédien. Mais ça ne va pas. Il n'y a que le Preminger qui a été vraiment un film qui a été important et qui est resté.
La Chamade, non, quand même ?
Même pas. Non, franchement, lui, il ne sauve rien. Il a tous revu, ce qui n'est pas mon cas, mais je crois que vous-même, qui êtes une spécialiste...
On va en parler d'ailleurs, si on a un petit peu le temps quand même du cinéma dans cette seconde partie. Et pour terminer, Pierre Assouline, l'autre livre, c'est Cannes 1939. Cette fois, c'est cinéma et politique.
C'est Olivier Loub chez Armand Collin. Et c'est très intéressant parce qu'il rappelle une chose qui est assez oubliée, à savoir que le Festival de Cannes n'a pas commencé en 1946. Il a commencé en 1939. Il est né de la réaction de Philippe Erlanger, futur grand historien, qui à l'époque était au Quai d'Orsay, qui avait été à la Mostra de Venise et qui avait été scandalisé parce que c'était un film français. C'était, je crois, la règle du jeu. Enfin, un film de genre noir qui, de l'avis de tous les critiques, devait avoir la palme à la Mostra de Venise. Et puis finalement, c'est Les Dieux du Stade, un documentaire, même pas un film de fiction, un documentaire de Leni Riefenstahl, imposé par Hitler et par Mussolini, qui a eu la palme. Et ça l'a tellement scandalisé qu'ils ont, les Français ont claqué à la porte. Et ils ont dit, on va faire notre festival à nous. Et ils ont lancé le festival de Cannes en 1939 en disant, chaque année on tournera, l'année prochaine on ira à Biarritz, etc. Tout de suite, le lobby hôtelier de Cannes s'est formé en disant, pas question, on restera à Cannes. Et au moment de lancer le festival, ça a été les prémices de la guerre. C'était pratiquement la guerre. Et donc là, il a fallu renoncer et ça a été reporté après la libération.
Et c'est comme ça que Cannes est devenu le lieu de la diplomatie culturelle française. Merci beaucoup Pierre Assouline, on vous retrouvera bientôt à ce micro et dans l'intervalle évidemment dans les colonnes du magazine littéraire.
On dit que vous écrivez la nuit, c'est vrai ?
Oui, j'écris la nuit, en tout cas à Paris, parce que dans la journée, il y a les téléphones, les gens qui passent. Cette maison est un peu comme une gare, il y a beaucoup de circulation. Et puis, il y a mon fils, qui me parle comme un moulin. Alors, la nuit, à partir de 11h du soir, minuit, ce quartier tranquille, il y a du silence. Je crois que je suis la seule maison éclairée de la rue. Et jusqu'à 4h du matin, on se sent la reine de la ville.
Une reine qui dicte au magnétophone son texte.
Non, pas magnétophone, ça je suis incapable. J'ai essayé, mais quand je m'écoutais après parler, j'avais des fous rires nerveux. Bien. Entre sa propre voix dire Édouard, on passe à Béatrice, on se tord de rire, c'est pas possible. J'ai quelqu'un qui était, enfin une secrétaire qui est habituée et qui vient, qui a pris mes horaires. Et je lui dicte à elle la nuit. Enfin, je me promène, je dicte et elle prend en sténo.
Et ça vous donne plus de liberté de dicter que d'écrire ?
C'est-à-dire, je tape assez mal. C'est-à-dire, comme ça, j'ai commencé à dicter parce que je me suis cassé le bras bêtement à la campagne et j'étais en plein de. Les bleus à l'âme. J'ai envie de continuer. Et donc, il me restait trois doigts pour taper. Ça devenait une. On devenait pratiquement cinglé de taper des phrases longues avec trois doigts. Ça devient. Alors, c'est Jules Dassin qui m'a conseillé de dicter. Au début, j'ai eu le plus grand mal, ça me paraissait. Le comble de l'exhibitionnisme, c'était odieux, quoi. Et puis au bout de trois jours que cette malheureuse créature était venue et qu'elle attendait que j'aille bien ouvrir la bouche pour lui parler d'autre chose que du temps, j'avais des remords de la déranger pour rien. Et j'ai dû boire trois whisky avec les deux maxitons comme on fait à la Sorbonne. Et je suis arrivée à dicter et maintenant j'ai pris l'habitude. Ça donne de l'élan, ça permet d'aller plus loin parce qu'on a envie de convaincre ce qu'on dit. On approfondit instinctivement. On prend moins le goût de l'ellipse qu'un refuge de la paresse, souvent. Et puis, il y a une espèce de musicalité de la phrase qu'on entend en la disant.
Voilà, Céline Romadova, avant qu'on ne reparle un peu plus du cinéma et ensuite du théâtre, je voulais vous faire entendre cette archive sur la manière dont Sagan travaillait la nuit avec tout de même sa secrétaire, qu'elle faisait donc veiller toute la nuit avec elle.
Oui, ça renvoie bien à l'image qu'elle reconnaissait elle-même, celle d'un écrivain sérieusement paresseux, c'est-à-dire qu'elle travaille, ça c'est évident, mais effectivement avec une aide ici non négligeable. Mais
c'est quand même rigolo de faire venir quand même quelqu'un la nuit pour lui dicter quelque chose.
Certainement que ça renvoie à cette peur de la solitude, hein, même dans l'écriture, enfin on va dire dans la rédaction concrète. Ce qui est intéressant, c'est le fait que cette oralité mène aussi à une forme de musicalité, comme elle le dit. Vous avez parlé de phrase « gigogne hier », c'est vrai qu'elle fonctionne souvent par un peu par anadiplose, elle rebondit sur le mot d'avant. Du coup, ces phrases sont parfois sans verbe ou avec un rythme très particulier, un phrasé qui a été analysé pour son aspect classique, mais aussi moderne par... le style minimaliste, en fait, qu'on a parfois rapproché du groupe des Hussards dans l'économie de moyens.
Et vous, ça vous paraît une analogie intéressante qui se vaut, celle avec les Hussards ?
Alors, en partie, oui, puisqu'effectivement, on retrouve le côté néoclassique, l'absence d'engagement, certaines figures de dandy, la thématique des voitures, du whisky, de la fête, parfois. Après, c'est un groupe qui est plus ancien, c'est la génération d'avant, et surtout qui était, comme le dit Marc Dambre, des anti-sartriens de choc, ce que n'est pas du tout Françoise Sagan. Et évidemment, les opinions politiques sont diamétralement opposées.
Est-ce que vous diriez que son style a beaucoup évolué entre Bonjour Tristesse et les derniers romans des années 90 ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des périodes stylistiques dans la vie de Sagan, dans son œuvre ?
Je pense que c'est plus des périodes thématiques, puisqu'on a par exemple une trilogie guerrière, entre guillemets, consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Pardon. C'est plutôt... voilà,
Donc elle est tout de suite elle-même, et puis elle le reste.
Je pense, et c'est peut-être ce qu'on lui a reproché finalement, d'avoir réussi tout de suite un excellent roman, et d'avoir ensuite, malgré tout, malgré les critiques journalistiques, toujours entretenu un lectorat fidèle finalement.
Il n'y a pas une envie de chercher formellement davantage, d'écrire différemment?
Je pense qu'elle était très spontanée, c'est ce qu'elle disait finalement, et c'est ça, c'est peut-être ça qui explique son besoin d'oralité.
Tu t'amuses bien?
Oui, pas toi?
Non. Contrairement à toi, j'ai horreur des situations fausses.
Enfin, écoute, je vais quand même pas me rouler par terre parce que j'ai trouvé ta cravate dans la chambre de Diane. En plus, cette cravate que je trouve affreuse, dans ce décor tout blanc, je trouve qu'elle avait quelque chose de gai, de naturel.
Dans une heure, tu seras dans les bras de Charles.
Non, seule.
En tout cas, loin de moi.
C'est terrible, quand tu es arrivée tout à l'heure, je me suis sentie rougir. Je n'osais même pas te regarder en face. Je tremblais.
Moi aussi.
Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je me sens même très bien. Comme quelqu'un d'amoureux.
Oh, mais c'est de l'eau!
Un extrait de La Chamade d'Alain Cavalier, Céline Romadova. Vous diriez aussi, comme semblait le dire Pierre Assouline tout à l'heure, qu'au fond, ça n'était pas particulièrement intéressant, tous ces films autour de Françoise Sagan, des reprises de livres.
Effectivement, elle-même reconnaissait qu'il y a eu plus de fours que de succès, malheureusement. Je suis d'accord également pour dire que le film d'Otto Preminger est une réussite. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il reprenne l'idée du récit rétrospectif. Cécile raconte son histoire une fois que le drame a eu lieu. Et du coup, on a en fait ce jeu entre le jeu narrant et jeu narré à l'écrit qui est repris par Otto Preminger avec une différence. Les moments du temps présent sont en noir et blanc et le temps passé, le temps du drame, est filmé en couleur. Donc je trouvais ce jeu très intéressant. Et puis le film est illuminé par la présence de Sean Seaberg qui est vraiment magnifique et qui fait une très belle Cécile.
Vous savez si Alain Cavalier a voulu adapter La Chamade ou si c'est une commande? Parce que quand même, Alain Cavalier, c'est un cinéaste qu'on n'associerait pas forcément à Sagan.
Je crois que c'est une commande. Et puis, il y a aussi, on va dire, l'émulation, le succès de François Sagan qui a dû motiver quand même les metteurs en scène, les réalisateurs de l'époque à reprendre des grands succès qui ont valu des millions d'exemplaires vendus. Effectivement, par Sagan.
Mais vous écrivez quand même que Sagan avait un rapport sincère au cinéma. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord en disant que le rapport du cinéma et de Sagan était marginal. Elle dit que le cinéma, ça reste quelque chose, effectivement, de... je reprends de très accessoires, ce qu'elle dit dans un recueil d'interviews. Donc, adapte ses propres romans, par exemple Les Fougères Bleues.
Et c'est bien ça, Les Fougères Bleues, pour
non.
vous
Enfin, j'aime beaucoup sa nouvelle des Yeux de Soie, qui renvoie toujours à la jalousie, à la métaphore de la prédation, du chasseur dans l'amour, ce que j'aime beaucoup. Par contre, elle s'est beaucoup amusée, elle personnellement, à écrire des scénarios, par exemple Landru, effectivement.
Avec Chabrol, d'ailleurs.
Voilà. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est ses critiques dans l'Express. En 1960, elle a commencé, en fait, par réagir à une critique qui a été faite sur le film de Truffaut, Les Bonnes Femmes. Elle répondait ce qu'elle n'était pas d'accord. Et le directeur de l'Express, qui était convaincu, lui a demandé d'écrire une chronique hebdomadaire en 1960. Elle a pris très vite les choses comme un pinsomme. Elle a proposé des articles très intéressants sur... elle était assez en désaccord avec la tendance Duras, entre autres. Elle défendait plutôt la tendance de la nouvelle vague.
Elle s'ennuyait quand elle voyait des films de Duras.
Oui.
Et ça, c'était
l'ennui, c'est
rédhibitoire.
Pour ouais. elle. Voilà. Et ce qui est intéressant, j'adore la façon dont elle a quitté finalement cette série d'articles. Elle a inventé un article comme si elle avait vu un film qui s'appelait Les Doigts dans le Nez, complètement imaginaire. Et son article est loufoque au possible. Vraiment, c'est l'esprit de Sagan. Hein. Toujours très, très drôle. On retrouve celle qui avait pendu le buste de Molière quand elle était en classe, hein, voilà, c'est...
Et alors sur le rapport entre les romans et le cinéma, est-ce que elle a été elle-même influencée par cette esthétique du cinéma, et notamment je pense à l'esthétique de la nouvelle vague qui peut, par certains côtés, la légèreté par exemple, rappeler des romans de Sagan?
Effectivement, j'ai consacré un chapitre de ma thèse à ce rapport. On parlait d'écrivaines de la nouvelle vague, hein, c'est des choses qu'on trouve dans la critique de l'époque. Effectivement, certains de ces personnages en errance peuvent faire penser à Douanel, ce genre, aux 400 coups par exemple, mais qu'on a une certaine connivence thématique, effectivement, cette jeunesse dorée en recherche de sens, l'érotisme aussi parfois, et quelques procédés, l'écriture minimaliste, néo-réaliste. Et j'ai trouvé dans l'enchaînement de certains chapitres chez François Sagan, comme dans La Chamade, le procédé du fondu enchaîné, par exemple, qu'on trouve dans La Nouvelle Vague. Donc il y a quelques éléments qui les rapprochent, mais elle-même refusait l'étiquette. Le terme Nouvelle Vague l'insupportait.
Comme toutes les étiquettes, d'ailleurs.
C'est ça.
Si vous lui aviez dit, François Sagan, vous êtes un écrivain néoclassique, qu'est-ce qu'elle aurait répondu ?
Je pense que... On pourrait lui coller une autre étiquette, un petit peu de bourgeoise bohème. Donc, parfois, effectivement, je pense qu'elle aurait certainement été interpellée par le côté conservateur de ce terme néoclassique. Mais elle est très moraliste aussi dans certaines façons de proposer des aphorismes en cours de roman. Voilà, elle a l'art de l'ellipse, vraiment, qui rappelle les grands moralistes du XVIIe siècle.
Conservateur, ça veut dire aussi anti-moderne. Est-ce que vous iriez jusqu'à employer ce mot-là ?
Non, parce que elle est quand même soucieuse des problématiques de son époque, mais elle ne cherche pas la nouveauté. Elle dit elle-même, j'ai des personnages, une intrigue, je ne cherche pas à travailler mon style pour effectivement avoir l'air moderne. Ça ne l'intéresse pas du tout. Mais par contre, elle reste moderne dans notamment la façon de faire référence à d'autres auteurs grâce à l'intertextualité et la littérarité de son œuvre qui est indéniable.
Ce petit Frédéric est-il une bonne affaire, comme on disait si gaiement à Paris ?
Oh, tu sais, d'une certaine manière, oui, dans le style chiot, et encore.
Est-il attendrissant ?
Assez, oui, et très beau. Ça, je dois le reconnaître, il est remarquablement bien fait.
Oh, c'est déjà ça. Quoiqu'à mon sens, pour un homme, comme disait Talleyrand, la beauté fait gagner 15 jours.
Comme au bout de 15 jours, un homme me fatigue, je gagne du temps.
Oui, c'est juste. Affligeant, mais juste. En attendant, je commence à m'occuper du goût. Il se doute de quelque chose, je crois, et je l'encourage vivement sur cette voie.
Attends un peu, tu es toujours trop pressé.
Tu sais bien que c'est ma distraction favorite. Et puis quoi, tu as assez roucoulé, il me semble.
Serais-tu jaloux ?
Depuis toujours, tu le sais bien. Ah, nous aurions figuré avec grâce, mais sans leur entrain, hélas, chez les Atrides.
Un extrait de Château en Suède, la pièce de Sagan avec Claude Rich et Françoise Brion. C'est vraiment très Sagan ce qu'on vient d'entendre, cet extrait-là. Est-ce que ça vous semble aussi important que les romans, le théâtre ? Il y en a quand même beaucoup. Elle a fait à chaque fois alternativement un four, un succès, un four, un succès. Elle a beaucoup insisté sur ce point. Votre point de vue, Céline Romanova ?
J'ai consacré ma thèse au roman de Sagan par goût, pas forcément en fonction de l'importance que François Sagan accordait au théâtre. C'est une expérience qu'elle a menée avec beaucoup de jouissance. En fait, elle était fascinée par le fait de voir les personnages qu'elle avait pu inventer être incarnés par des acteurs, et elle était très reconnaissante finalement aux metteurs en scène, aux acteurs, de rendre hommage d'une certaine façon
à son imagination. C'est ça la question de l'existence, elle arrivait à faire exister enfin ces personnages peut-être sur scène.
Effectivement, et puis elle a eu deux grands succès, effectivement, alors pas aussi grand que pour Bonjour Tristesse, donc c'est pour ça qu'on pense surtout à Sagan romancière. Mais Château en Suède, c'est vraiment une œuvre que j'apprécie beaucoup, qui a été rejouée régulièrement, et encore aujourd'hui, il y a une mise en scène d'Ariane Reynaud qui est très moderne et qui va être jouée au Théâtre de Belleville à partir du mois d'août.
Et alors, elle est héritière de toute une histoire littéraire quand elle écrit du théâtre ?
Bien sûr, on a l'héritage classique de la tragédie classique, puisqu'on a la figure du huis clos. Je rappelle que c'est l'histoire d'un château en Suède qui va être bloqué par la neige, et donc la famille Falsen accueille chaque année un cousin venu de Stockholm qui va être mangé tout cru par cette famille. On a toutes des scènes de marivaudage, puisque généralement les cousins s'éprennent d'Éléonore, la femme d'Hugo, le châtelain.
Quand vous dites marivaudage, c'est pas juste le nom.
Non, c'est vraiment une façon d'écrire avec des sous-entendus, avec de l'art de la suggestion, quelques apartés, également des jeux de mots, en fait. Toute une façon vraiment très 18e siècle de présenter l'amour.
Qui est assumée par Françoise Sagan, qui est revendiquée presque.
Totalement, parce qu'à un moment donné, dans la pièce, Château en Suède, elle dit « nous, bah dis non, je crois ». C'est ce que dit Éléonore et Frédéric. Donc on a vraiment une conscience très forte, effectivement, de réécrire à la façon de Marivaux.
Et ça, c'est un jeu pour elle ?
L'intertextualité est un jeu permanent pour Françoise Sagan. Elle a des références constantes aux auteurs de l'Antiquité. Là, elle cite les Atrides. Je vous ai dit, le mythe d'Oedipe est fondamental pour l'œuvre de Françoise Sagan, par exemple. Et on peut retrouver d'autres influences. Alors, peut-être Ibsen, puisque c'est un château en Suède. Pourquoi en Suède ? Je me suis posé la question, peut-être par souci d'exotisme, mais je pense aussi parce qu'il y a peut-être une réécriture du Canard sauvage aussi, avec... pas du tout dans la même écriture, mais avec l'idée, effectivement, d'un manque d'existence et l'idée d'enfermement qui mène à la mort aussi.
D'autres grands aînés, Racine, que vous citez beaucoup.
Effectivement, avec, je vous ai dit, l'idée du huis clos, avec aussi l'idée qu'on est séparé entre corps et esprit. Généralement, les personnages sont comme dédoublés chez Françoise Sagan, ce qu'elle était également dans la vie, ce que vous avez dit dans une émission précédente.
Annick Jay disait ça, oui.
Effectivement. On a vraiment la représentation de l'héros racinien, tel que le décrit Barthes, les larmes notamment, qui coulent, le sadisme aussi, qui est très important chez Sagan.
Pourquoi où est-ce qu'on le voit, ça, le sadisme
Alors, dans Château en Suède, puisque les personnages... Nous, on apprend assez tard, finalement, que les cousins sont tués chaque année. On découvre l'issue au fur et à mesure. Donc, quand on sait depuis le début que les personnages badinent avec Frédéric alors qu'il est condamné à mort, finalement, la situation est assez horrible. Pour le sadisme, on le voit, par exemple, dans la relation entre... dans la laisse entre Nicole et Vincent, la laisse, le titre est métaphorique en soi, et elle fait souffrir exprès. Justement, il y a une citation de Racine dans la laisse, elle dit « c'était comme Vénus tout entière à sa proie attachée ». Donc les personnages aiment faire souffrir les autres. Et ce qui est intéressant dans le lit des faits, c'est que donc notre personnage romantique, Édouard, le dramaturge, cultive finalement cette souffrance. Il est presque sadique, bourreau de lui-même, comme le disait Baudelaire par exemple, puisque c'est cette souffrance qui est, va être créatrice, lui permettre d'écrire son drame.
Et là, on est plus du côté de Shakespeare.
Alors Shakespeare, elle y fait allusion. On a plusieurs épigraphes en fait de Shakespeare au début des romans de Sagan, comme dans Le Garde du cœur. Et justement, là aussi, il fait preuve de... Alors pas forcément de sadisme, parce qu'il ne... Lewis est un... on dirait un psychopathe aujourd'hui, un meurtrier qui va en fait éloigner du paysage tous ceux qui font de l'ombre à sa protectrice, Dorothy. Et il le fait avec un total désintéressement, avec c'est un assassin impudique, comme le dit Dorothy, c'est-à-dire qu'il n'a pas de remords par contre. Donc lui, il n'agit pas forcément par sadisme, alors que d'autres personnages font souffrir les autres, effectivement, à bon escient.
Enfin, la question finalement, la dernière question qu'on pourrait se poser juste avant de rendre l'antenne, Céline Romadova, c'est la question de la postmodernité. Elle est dans une époque postmoderne, elle-même néoclassique. Quel est finalement son positionnement, selon vous, par rapport à quand même ce grand courant du moment où elle écrit ?
Je pense qu'elle reste malgré tout très proche d'une écriture classique. C'est l'héritière de Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, aussi de Laclos, des Liaisons dangereuses. On a une référence à Madame de Merteuil dans Bonjour Tristesse. Elle n'a pas vraiment, ne propose pas de grandes nouveautés du point de vue du style, mais c'est ces thèmes effectivement qui font réfléchir en lien avec l'époque finalement, notamment.
Donc c'est le sujet qui est postmoderne.
Oui.
Merci beaucoup Céline Romadova. Tout de suite la poésie sur France Culture, Jacques Bonafé.
Holy, holy, holy.
Jacques Bonafé qui vous propose d'entendre des textes de Christophe Tarkos dont le projet était de vivifier et de défendre la langue française mais qui a malheureusement disparu trop tôt en 2004 à l'âge de 41 ans. Aujourd'hui, à l'amour, à la vie.
Bonjour, aujourd'hui, extrait de « Oui » de Christophe Tarkos, le chapitre « Amour ». C'est paru chez POL, les écrits poétiques de Christophe Tarkos. 10 poèmes d'amour, plusieurs versions parues dans des revues en 94, 95, 96. 1. Je t'aime toi, j'ai besoin de toi, j'aime ce qui existe, je t'aime toi, tu es là, j'aime ce qui existe plus que ce qui n'existe pas. Je m'enfonce, tu es vivante, je t'aime, j'ai besoin de ce qui vit, j'aime d'amour, je ne sais plus ce que tu es, je m'enfonce, j'ai le vertige, je t'aime, c'est toi que j'aime, tu es. J'aime ce qui est, j'ai besoin de ce qui est, je t'aime, c'est toi que j'aime, toi plus que tout autre, toi plus que tout ce qui existe, je suis amoureux de toi, je t'aime plus que tout ce qui n'est pas toi, toi tu es là, je tombe dans tes bras, je veux te prendre dans mes bras, je suis pris de vertige, tu existes, je n'aimerais rien de tout ce qui n'existe pas que toi tu es, j'aime ce qui est plus que tout ce qui n'est pas, je m'enfonce, c'est toi que j'aime. Un extrait de Process, publié en 97, écrit à Paris et puis à Marseille. 126 pages sans table des matières, process, hop, hop. Ma langue est claire, claire comme la musique est belle. Ils disent la musique est belle, profonde et claire comme la savane, comme la langue mandingue. Ma langue est claire, mais elle n'est pas mandingue. Ma langue est aisée à comprendre, ma langue est évidente et manifeste. Ma langue est claire comme l'eau claire de la bouche, de mes paroles, l'eau claire des mots, eau claire, le sens de l'eau claire dans ma langue, le sens d'eau claire dans ma langue et le résultat illusoire, la roche et source. Ma langue sur la bande magnétique de mon répondeur téléphonique. Bonjour, c'est Monsieur Bayon Michel de chez Zobac. Je viens pour prendre des renseignements au sujet du jambon que tu dois toujours nous ramener. C'est pas parce que c'est pas pour moi, c'est pour mon frère. Comme on doit partir samedi matin de bonne heure en vacances, je voudrais savoir exactement où est-ce qu'on en est avec ce jambon. Rebonjour, Monsieur Bayon Michel de chez Zobac. Je vous appelle pour le jambon que tu devais nous porter depuis 15 jours et qu'on attend toujours. Et ce jambon n'est pas pour moi, mais pour mon frère, Christian Déméville. Ma langue est claire, pas clairement, mais au fond, d'une logique clairvoyante. Dans la pensée confuse, les mots naissent propres, rangés et logiques par le mystère de leur naissance et de leur connexion. Ils ne peuvent faire autrement. 4, 5, 6, nous piochons dans les poèmes d'amour sortis des écrits poétiques complets de Christophe Tarkos paru chez POL. 4. L'amour est un amour pur, notre amour était pur, lorsque nous nous aimions, nous étions dans l'amour, nous faisions l'amour, nous étions des amours, nous étions l'amour est pur, nous ne réfléchissions pas, nous nous aimions, nous étions dans le pur amour, mon amour, lorsque nous nous aimions, nous n'allions pas savoir, nous nous aimions dans la pureté, car l'amour est très pur, simplement nous nous aimions, amoureux l'un de l'autre, dans la pureté, mon amour, nous étions, pendant que nous nous aimions, pur amour.
De Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des textes extraits des œuvres poétiques de Christophe Tarkos édité chez POL. Et c'est ainsi que se termine cette troisième édition d'une compagnie des auteurs consacrée jusqu'à demain à l'écrivaine Françoise Sagan, quelques jours avant la remise du prix qui porte son nom. Merci à Céline Romadova, docteur en littérature et civilisation française et auteur d'une thèse intitulée « Les romans de Sagan, sincérité et faux-semblant » qui est en attente d'un éditeur. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou directement sur le site internet de France Culture. C'est le cas également, mais vous le savez, de toutes nos émissions depuis le début de la Compagnie des auteurs. Demain, Sagan, suite et fin, avec une émission en deux parties. Nous parlerons d'abord de son année 1954, qui a vu paraître Bonjour Tristesse, et puis du Paris de Françoise Sagan, Paris la ville. Ce sera avec Anne Berest, puis avec Alain Vircondelet. Cette émission était réalisée par David Jakubowicz à la console. Il y avait Alexandre Dang. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.